bonsoir à tous. Le risque incendie est très élevé sur le département des Deux-Sèvres. Il se matérialise d'ailleurs en ce moment à Lauré d'Argenton, en début d'après-midi à Loublande. Vous entendrez la présidente du 10-79. La consommation d'eau a atteint des records avec la canicule du jamais vu, même pour le SVL qui nous a détaillé les chiffres de la semaine. La chaleur perturbe depuis lundi l'activité dans le BTP qui s'adapte mais qui demande aussi de la souplesse chez les donneurs d'ordre. Le conseil départemental débouté de sa plainte pour diffamation publique déposée à l'encontre de la CGT qui s'en réjouit. Le nouvel espace jeunesse ouvre demain à Mauléon à côté du complexe Sainte-Anne. Enfin, les organisateurs du Grand Prix historique de Bressuire sont suspendus aux alertes météo et arrêtés préfectoraux.
La météo justement à l'issue du journal avec un mercure haut encore demain mais qui continue quand même de baisser.
Un incendie de grande ampleur dans le sud du Maine-et-Loire aux portes de la commune de Sévrienne de Valenvigne. Le feu s'est déclaré dans la forêt de Brignon et a déjà parcouru 120 hectares de massifs forestiers. 160 pompiers du Maine-et-Loire étaient mobilisés encore à la mi-journée, renforcés par des collègues de Normandie en Deux-Sèvres. Compte tenu des conditions météo, le département, comme celui de la Haute-Garonne, est passé en niveau de risque très sévère pour les feux d'espaces naturels, les forêts notamment. Alors, pourquoi les Deux-Sèvres sont-ils en rouge? Écoutez la réponse de Claire Gingros, présidente du SDIS.
Il y en a plusieurs en fait, et c'est la combinaison de ces critères qui fait qu'une région passe d'une couleur à une autre. Parmi les critères, on doit retrouver la température, l'humidité, la vitesse du vent, quand est-ce qu'il a plu la dernière fois, le stress hydrique des végétaux, et c'est la combinaison de tout ça qui fait le classement.
Est-ce que ça induit des moyens supplémentaires pour le département?
Alors effectivement, ces appuis météo sont vraiment déterminants pour le service départemental d'incendie et de secours. Et nous avons renforcé notre posture puisque en plus des 50 pompiers qui sont en garde sur le territoire, nous en avons rajouté 20 en garde postée, c'est-à-dire prêts à intervenir immédiatement. Donc au total, nous avons un peu plus là de 200 pompiers qui sont mobilisables. Nous avons acheté 5 camions feux de forêt supplémentaires. Nous allons encore en commander 4. On a déployé des formations pour nos sapeurs-pompiers ou encore, on en a parlé dernièrement, on s'est inscrit dans le soutien au Pélicandrome qui est déployé sur l'aérodrome de Niort. Depuis la saison de feu 2022, on travaille main dans la main avec le monde agricole.
Et les particuliers ont aussi un rôle à jouer en étant vigilants sur les barbecues et les mégots de cigarettes, par exemple. Les pompiers de Sévrien sont donc sur le front et cela se traduit actuellement à Lauré d'Argenton avec 3 départs de feu distincts. 50 hectares ont déjà brûlé et plusieurs dizaines d'autres sont menacés. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés notamment pour protéger une exploitation agricole. Un feu également cet après-midi du côté de Loublande, près de Mauléon. Une dizaine d'hectares d'herbes sèches ont brûlé, 35 sapeurs-pompiers sont intervenus.
Et la consommation d'eau atteint des records avec cette canicule.
C'est du jamais vu, les chaleurs extrêmes des derniers jours engendrent des pics de consommation d'eau, comme a pu nous le confirmer le SVL aujourd'hui. Habituellement en juin, une journée type, c'est 18 ou 19 000 mètres cubes d'eau, mais depuis le début de la semaine, les compteurs explosent sur le territoire couvert par le syndicat du Val-de-Loire, exploité par Agur. Explication du phénomène avec Sébastien Reynaud, le directeur du SVL.
On avait un record de consommation sur le territoire du syndicat qui était de 25 000 mètres cubes par jour. Ce record datait de juillet 2019. Et cette année, là, sur les 3 derniers jours, ce record a été battu chaque jour puisque sur lundi, mardi, mercredi, on a mis en distribution 26 000 lundi, 27 000 mètres cubes mardi et à nouveau 26 000 hier. Donc c'est exceptionnel, un record historique. À chaque degré de plus de température maxi, en fait, la consommation d'eau augmente d'environ 3%. Ce qui fait que entre une journée où il fait par exemple 23 degrés ou comme ces jours-ci on est monté à 43, 20 degrés d'écart, la consommation d'eau a augmenté de 60% en fait entre ces deux journées-là.
Cette consommation exceptionnelle s'explique très simplement pour Jean-François Moreau, le président du SVL, qui ne s'inquiète pas pour la ressource cet été.
Sans doute les gens prennent plus de douches, boivent plus, voilà, donc il y a des consommations plus importantes par les particuliers. L'arrosage des jardins qui est aussi plus important en cette période. Et exactement comme vous le dites, en élevage, on a de plus en plus de consommation. Les animaux sont à l'intérieur ou alors les éleveurs amènent beaucoup plus à boire à leurs animaux qui sont au champ. Il y a aussi de la brumisation qui a été installée dans beaucoup d'élevages, manière à abaisser la température. Ça aussi, ça fait une augmentation des consommations en élevage.
Consommation exceptionnelle, mais pas de restrictions à ce stade, puisque le Sébron partait sur un taux de remplissage déjà très élevé cet hiver. Hein.
Pas d'inquiétude à avoir, le Sébron était bien rempli dans l'hiver. Là, il descend un petit peu plus vite que la normale, mais on sait qu'il y a la ressource. Le SVL a trois ressources, mais les ressources principales, c'est le Sébron et la Loire. Et on sait qu'on n'a pas de difficultés d'approvisionnement, tant en quantité qu'en qualité.
Le syndicat du Val-de-Loire qui se montre serein car les investissements réalisés sur les 10 dernières années et même plus, le château d'eau de Montigny par exemple, permettent d'alimenter les nords de Sévriens sans souci majeur pour le moment.
Et cette canicule, Fabien, perturbe aussi depuis le début de la semaine l'activité dans le BTP.
Le secteur du bâtiment et des travaux publics est l'un des plus exposés aux fortes chaleurs. À la demande de la Fédération, le préfet a autorisé dès lundi le début des chantiers à 6h du matin, mais les températures sont telles que les entreprises ont dû s'adapter pour que les salariés puissent affronter cet épisode qui tend à se renouveler. Certains comme Franck Michelon, maçon couvreur à Juscor au sud de Niort, a mis ses salariés à l'arrêt.
À partir du moment où on est en vigilance orange ou rouge, il est possible d'activer le régime du chômage intempéré. Et c'est ce que j'ai fait moi pour mes salariés qui étaient prévus sur les toits cette semaine. Donc avec une température comme celle-ci, ce n'est pas possible. Donc en fait, mes salariés n'ont pas travaillé depuis lundi et ne travailleront pas demain non plus. Nous allons reprendre les semaines prochaines dans de meilleures conditions.
Franck Michelon fait donc un choix qui coûte à l'entreprise et aux salariés, mais qui les protège. Celui qui est aussi le président de la Fédération française du BTP en Deux-Sèvres appelle les donneurs d'ordre à se montrer compréhensifs concernant les éventuelles pénalités de retard.
Les chantiers, bien sûr, vont prendre du retard, parce que même si les entreprises travaillent, elles ne travaillent pas au même rythme. Elles adaptent leurs horaires, donc généralement, qui dit adapter les horaires, c'est aussi que les journées ne sont pas complètes, et puis la productivité est évidemment aussi inférieure. Donc, des retards vont être pris, hein, beaucoup de retards vont être pris dans beaucoup d'entreprises, et oui, je demande aux donneurs d'ordre de ne pas appliquer de pénalité en cas de dépassement. Parce que ce qui se passe, c'est que dès que la température redevient normale, tout est très vite oublié et on ne regarde plus que le planning. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, je pense, dans le futur, oublier un petit peu et adapter de même que l'on s'adapte, nous, à ces températures.
La Fédération du BTP appelle aussi le gouvernement à la responsabilité et pointe notamment la réduction des crédits consacrés à MaPrimeRénov' et les restrictions apportées à certains travaux de rénovation.
C'est l'info près de chez vous sur Colline, l'édition du soir, il est 18h10.
Le conseil départemental débouté de sa plainte pour diffamation publique a déposé à l'encontre de Sandrine Fournier, secrétaire générale CGT de la Santé et de l'Action sociale, et Karine Olivier de la CGT du conseil départemental. Elles avaient dénoncé des dysfonctionnements dans la gestion de la protection des enfants confiée par la justice au département. Un rejet de la plainte sur la forme car la justice n'a pas pu se prononcer sur le fond. La réaction de Karine Olivier.
La première réaction, si vous voulez, c'est la joie. Ça, on a plus l'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on sait que parfois la justice, par manque de moyens, peut être longue. On était heureuse. Après, il y a un deuxième effet, c'est-à-dire que la victoire, elle est en demi-teinte. Elle est en demi-teinte parce que, très franchement, on est des militantes de terrain, donc on aurait préféré que la justice, que la procureure reboote cette plainte et nous lave vraiment tout soupçon de diffamation. Donc c'est en demi-teinte, mais bon, cette procédure Bayon, ben, ça n'a pas fonctionné. C'est sur la forme, un article qui n'a pas été jusqu'au bout, où ils n'ont pas vraiment spécifié pourquoi ils portaient plainte. En fait, c'est là où on voit une sorte d'amateurisme. Mais bon, voilà, je ne sais pas s'ils se sont fait aider d'un cabinet d'avocats. En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas dû se faire aider des professionnels de notre service juridique au département.
Mais cette affaire n'est peut-être pas encore terminée puisque la présidente du département, Coralie Desnoux, peut encore faire appel. Depuis plusieurs années, à la demande de la municipalité et vu le Festival des Arts de la Rue placé le 4 juillet, le traditionnel cercle de silence qui se déroule, sauf exception, le premier samedi de chaque mois à Place Notre-Dame à Bressuire est avancé exceptionnellement au samedi 27 juin. Niort Agglo met en garde sur des démarchages frauduleux concernant la collecte des déchets. Les individus proposent aux usagers de mettre une puce sur leur poubelle jaune moyennant finance, mais aucune action de cette nature n'est engagé par l'agglomération.
Le nouvel espace jeunesse ouvre à côté du complexe Sainte-Anne à Mauléon.
Vendredi, demain donc, ouvrira l'espace jeunesse, anciennement au centre socio-culturel du pays Moléonais. Le local, le grand de 100 mètres carrés à deux pas du collège Sainte-Anne, permettra aux plus de 14 ans de se détendre, travailler, cuisiner, mais aussi de se renseigner auprès de plusieurs points de la vie adolescente, notamment les questions de vie relationnelle, sexuelle et affective, grâce à l'accompagnement des encadrants. Florian Auduro est animateur jeunesse à Moléon.
L'espace jeunesse, c'est un local qui est ouvert à tous les jeunes de 14 ans et plus. C'est un local où on peut y trouver de l'animation, parce que on est trois animateurs référents jeunesse et on peut proposer une programmation d'animation. Mais c'est aussi un local où on peut juste venir se poser pour être au frais, faire une partie de jeux de société, de jeux vidéo. Et c'est aussi un lieu où on peut trouver de l'information sur plein de thématiques différentes. En fait, toutes les thématiques qui peuvent concerner les jeunes de 11 à 30 ans. Ce lieu-là était intéressant parce qu'il est face au collège et que en fait 14 ans c'est l'âge où on est au collège et donc l'idée c'est de pouvoir donner un accès direct à ces jeunes là qui vont avoir 14 ans à l'espace jeunesse parce que c'est vraiment un lieu où nous les animateurs référents jeunesse on va pouvoir faire notre travail à fond et de manière régulière et pas être juste considérés comme les animateurs mais aussi comme des personnes ressources auprès de ce public là.
Un projet qui s'est intégré aux travaux de réhabilitation du complexe Sainte-Anne. Le maire de Moléon, Denis Prissé, s'est dit très heureux d'avoir enfin un espace dédié aux jeunes. Il est également au micro de Gaspard Breton.
C'est un projet qui se concrétise après de nombreuses années de collaboration entre la ville de Moléon, le centre socioculturel. C'est important pour nous d'avoir sur notre commune un lieu pour la jeunesse. Avec des éducateurs qui ont une vraie expertise, une vraie expérience de l'accueil jeunesse. Donc on est très heureux.
La soirée d'inauguration de l'espace jeunesse aura lieu ce vendredi pour permettre de découvrir le local. La soirée sera animée par des jeux concours du club Radio Moléon, des blind tests, un apéro évidemment sans alcool, ainsi que la diffusion du match France-Norvège. Les élèves de 3e passeront à partir de demain les épreuves du brevet. Les circuits de transport scolaire du matin circuleront normalement les vendredis 26, lundi 29 et mardi 30, a annoncé l'aglo 2B qui précise que des circuits spécifiques retour sont mis en place au départ des collèges.
Les organisateurs du Grand Prix automobile historique suspendus aux arrêtés préfectoraux.
Pour l'heure, les Deux-Sèvres sont toujours placés en vigilance rouge qui interdit toute manifestation sportive, bien que non chronométrée, le Grand Prix est considéré comme tel. Et il faut donc que la vigilance passe au orange pour qu'il puisse avoir lieu. Les organisateurs étaient inquiets ce matin, place Saint-Jacques. Écoutez Jean-Claude Fillon, le président d'Autorétro.
Effectivement, c'est problématique. Nous, on prépare la manifestation parce qu'on est obligé de la préparer. On n'a pas le choix, comme si ça aurait lieu. Mais par contre, on est quand même sous l'arrêté du préfet qui, pour l'instant, n'autorise pas les manifestations sportives, qu'elles soient en salle ou en plein air, en fonction de la canicule rouge. Donc, tant que l'alerte est rouge, on n'aura pas l'autorisation. Aujourd'hui, c'est le cas. Demain, on attend avec impatience pour savoir si l'alerte passera à orange. Sur Météo France, on voit que ça peut éventuellement passer à l'orange, mais pas les Deux-Sèvres encore.
Malgré tout, la 18e édition samedi et dimanche se prépare. 10 000 personnes sont attendues sur le week-end par 140 bénévoles sur et autour de la place Saint-Jacques. On en reparlera plus en détail. Demain, en football, Philippe Bazantet va passer la main à Pouzauges. Ce Deux-Sèvrien était président du club vendéen depuis 16 ans. Il part sur une fin de saison riche en titres avec les coupes des Pays de la Loire et de Vendée pour l'équipe Fagnon.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
La tendance orageuse se maintient ce soir et cette nuit, Fabien.
Oui, et demain, on part sur des valeurs encore chaudes, mais plus habituelles, c'est-à-dire 20-21 degrés au lever du jour. Le soleil est omniprésent demain, mais le mercure continue de baisser avec des maximales ce vendredi autour de 35 degrés. Peut-être de l'orage ce week-end, surtout sur la journée de samedi. Environ 35 degrés encore samedi. 27-28 degrés pour annoncé pour dimanche.
On pourra respirer un peu. Merci beaucoup Fabien pour toute cette info près de chez nous. L'actu près de chez vous revient demain matin.
Demain matin, 7h avec Patrice Bemanangy. Bonne soirée.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.